de Jakarta, voici la voix de l'Indonésie. La diffusion en français présente les nouvelles, les informations et les divertissements de l'Indonésie. Vous pouvez écouter notre émission tous les jours à la fréquence d'ondes courtes 3325 kHz et sur le site web www.voinews.id.
Bonsoir tout le monde, comment allez-vous? Ravi de vous rencontrer dans l'émission quotidienne en française diffusée depuis Jakarta. Je m'appelle Tiwi et je vais vous accompagner pendant 60 minutes pour présenter un certain nombre de programmes tels que les journaux, les infos de l'Indonésie, l'histoire d'aujourd'hui, mon Indonésie, le magazine culturel, l'Indonésie en couleur et des chansons indonésiennes. Bon, chers auditeurs, comme d'habitude, nous commençons par le journal. Soyez toujours avec nous à Voice of Indonesia de l'Indonésie au monde.
Bonjour, bonsoir à tous. Merci d'écouter la voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Voici le journal et on commence avec les titres. L'Ukraine et la Turquie discutent de la prolongation de l'accord sur les céréales. La Russie soutient la centralité de l'ASEAN qui est libre de toute concurrence géopolitique. La Russie discutera du renforcement de la coopération avec l'ASEAN à Jakarta. Chers amis, nous présentons maintenant le journal en complet. L'Ukraine et la Turquie ont discuté de la possibilité d'étendre l'accord sur la livraison de céréales à travers la mer Noire et l'échange de prisonniers entre la Russie et l'Ukraine vendredi. Cela a été déclaré par un responsable turc cité par Antara. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a rencontré le président turc Recep Tayyip Erdogan à Istanbul après des visites en Bulgarie et en République tchèque. La visite de Zelensky fait partie de son voyage dans un certain nombre d'États membres de l'OTAN pour faire pression pour des mesures concrètes pour l'adhésion de l'Ukraine à l'Alliance de défense à un sommet la semaine prochaine. Les questions importantes discutées par Zelensky à Istanbul détermineront l'avenir de l'accord négocié par la Turquie et les Nations Unies l'année dernière. La Russie soutient la centralité de l'Association des Nations de l'Asie du Sud-Est afin qu'elle ne devienne pas une scène de compétition géopolitique. C'est ce qu'a déclaré jeudi la porte-parole du ministère russe des Affaires étrangères, Maria Zakharova. Le ministre russe des Affaires étrangères, Sergei Lavrov, assistera à la réunion des ministres des Affaires étrangères de l'ASEAN à Jakarta les 13 et 14 juillet dans le cadre du sommet Russie-ASEAN, du sommet de l'Asie de l'Est et du forum régional l'ASEAN. Zakharova, dans un communiqué publié par le ministère russe des Affaires étrangères, a expliqué que lors de la réunion ministérielle, son parti rappellera aux partenaires les risques accrus causés par la politique occidentale de militarisation de la région Asie-Pacifique en y plaçant des forces de l'OTAN. Zakharova a déclaré que la Russie a appelé le bloc d'Asie du Sud-Est à renforcer des institutions par un mécanisme de dialogue efficace, inclusif, égal et constructif. Vous écoutez le journal de la Voix de l'Indonésie diffusé depuis Jakarta. La Russie discutera des possibilités d'accroître la coopération avec les ministres des Affaires étrangères de l'Association des Nations de l'Asie du Sud-Est lors de la réunion des ministres des Affaires étrangères de cette organisation à Jakarta la semaine prochaine. La porte-parole du ministère russe des Affaires étrangères, Maria Zakharova, a révélé jeudi que le ministre russe des Affaires étrangères, Sergei Lavrov, participerait à la réunion des 13 et 14 juillet dans le cadre du sommet Russie-ASEAN, du sommet de l'Asie de l'Est et du forum régional de l'ASEAN. Zakharova a déclaré dans un communiqué publié par le ministère russe des Affaires étrangères qu'elle discuterait des mesures à prendre pour ouvrir de nouveaux domaines de coopération, y compris la transformation numérique et le développement des villes intelligentes. L'amélioration des relations entre l'ASEAN et l'Union économique eurasienne et l'Organisation de coopération de Shanghai sera le principal ordre du jour de la réunion. Le premier ministre néerlandais Mark Rutte va démissionner de son poste. Il présentera sa démission au roi des Pays-Bas. Rutte, lors d'une conférence de presse rapportée par AFP samedi, a déclaré qu'il remettrait immédiatement sa démission par écrit au roi au nom de tout le gouvernement. Rutte a démissionné de son poste en raison de la crise politique de son parti de soutien au Parlement. La raison de la démission de Rutte était qu'il y avait des divergences d'opinion entre les partis de la coalition qui le soutenaient concernant les mesures visant à endiguer la migration sont inconciliables. Le président russe Vladimir Poutine effectuera une visite en Turquie en août. Cette visite sera la première visite de Poutine en Turquie depuis que Moscou a lancé son invasion à l'Ukraine en février 2022, tel que rapporté par AFP samedi. La visite preuve de Poutine a été révélée par le président turc Recep Tayyip Erdogan lors d'une conférence de presse avec le président ukrainien Volodymyr Zelensky, qui a effectué une visite d'urgence en Turquie vendredi. Le président indonésien Joko Widodo espère que des visites en Australie et en Papouasie-Nouvelle-Guinée pourront réduire les conflits et les désirs de certains groupes. Le président Joko Widodo, après l'ouverture du carnaval de rue de Papouasie, qui est centré dans la zone du bureau du gouverneur de Jayapura vendredi, a déclaré que ses visites en Australie et en Papouasie-Nouvelle-Guinée devraient accroître la coopération dans le secteur économique, notamment l'exploitation minière, l'industrie et le streaming ou l'aval, ainsi que l'établissement de bonnes relations avec les deux pays. Le président a souligné, quoi qu'il en soit deux pays, l'Australie et la Papouasie-Nouvelle-Guinée sont très influents pour l'Indonésie. Chers amis, c'était le journal de la Voix de l'Indonésie, diffusé depuis Jakarta. Merci d'être fidèle à notre antenne, la Voix de l'Indonésie, diffusée depuis Jakarta. Chers amis, voici la rubrique « Les nouvelles de l'Indonésie ». Les premières nouvelles sont venues de Sentani en Papouasie. Le 13e festival de l'art Sentani qui se déroule en Papouasie a été officiellement inauguré par le ministre du Tourisme et de l'Économie Créative de la République d'Indonésie, M. Sandiaga Salahuddin Uno, le 5 juillet 2023 à Kalkote, Kampung Aceh Besar, le district Sentani Oriental. Il y a de nombreuses attractions culturelles à l'ouverture du festival, entre autres la danse de Iso Solo. Selon le chef de service du tourisme et de l'économie créative de la régence de Jayapura, Papouasie, M. Ted Mukai, mercredi 5 juillet, a déclaré qu'à l'ouverture du festival, il y avait 250 danseurs de 10 villages autour de la région de Jayapura qui se sont produits la danse de Iso Solo sur un bateau en ouverture du festival. Selon lui, la danse est devenue une icône lors de l'ouverture du 13e festival du lac Sentani. Il a dit que la danse Iso Solo était exécutée par des représentants de 10 villages de Jayapura. Ces villages sont divisés en 2 du district de Sentani et en 8 du district de Sentani à Jayapura, où chaque village sera représenté par 25 danseurs. Il a expliqué que la danse de Iso Solo est une attraction de danser sur un bateau qui est la marque de la tribu Sentani dans la régence de Jayapura. La danse Iso Solo symbolise l'harmonie interethnique et une tradition du peuple Sentani. Les nouvelles suivantes sont venues de Cilegon, Banten. Le ministère de la Loi et des droits de l'homme de Banten a officiellement soumis une lettre d'enregistrement de la création de chansons Bendrong Lesung au chef du bureau de l'éducation et de la culture de la ville de Cilegon, avec l'enregistrement de l'inventaire de la propriété intellectuelle communale, selon le chef du bureau régional du ministère de la Loi et des droits de l'homme de Banten, M. Tejo Harwanto, la légalité de l'œuvre de la chanson est juridiquement claire. Pendant ce temps, le chef du bureau de l'éducation et de la culture de la ville de Cilegon, Henny Anita Susila, a déclaré que la chanson « Bendrong Lesung » est un fait populaire depuis les années 1990, était utilisé comme accompagnement de la danse de Bendrong Lesung. Cette danse symbolise l'enthousiasme des gens à accueillir la saison des récoltes et comme un symbole de gratitude pour les résultats qu'ils reçoivent. Il espère également qu'avec l'enregistrement au ministère, cette chanson pourra devenir une chanson appréciée et durable pour toujours. Les dernières nouvelles viennent de Banjarmasin, Kalimantan du Sud. Pour le succès des activités touristiques de Kalimantan du Sud, le gouvernement provincial de Kalimantan du Sud a assuré avoir promu le titre du Festival Loksado 2023 du 7 au 9 juillet 2023 au KDP étranger. Selon le chef du bureau provincial du tourisme de Kalimantan du Sud, M. M. Sharifuddin à Banjarmasin mercredi, le festival qui se tient dans la zone stratégique touristique nationale de Loksado dans la région de Hulu Sungai Selatan possède le potentiel d'attirer les touristes étrangers. Il a déclaré qu'en plus de la promotion du festival annuel dans le Géoparc national des montagnes de Meratus, réalisé par le ministère indonésien du tourisme et de l'économie créative, le gouvernement provincial de Kalimantan du Sud l'a également intensifié à travers les médias sociaux. Selon lui, le festival Loksado est devenu l'un des événements charismatiques de l'archipel du ministère indonésien du tourisme et de l'économie créative. Sharifuddin a déclaré que l'attraction touristique de Loksado a déjà un nom non seulement au niveau national, mais aussi dans le monde, de sorte que de nombreux touristes étrangers y viennent. Avec la tenue du festival de Loksado, M. Sharifuddin est optimiste que les touristes étrangers, notamment des pays d'Asie du Sud-Est, seront intéressés à le regarder. La série de festivals propose différents types de performances tels que des arts, de la culture, des plats typiques de la communauté locale, le rafting en bambou, le tubing, le festival mahumbal, cela veut dire le riz plus long sur du bambou, des soirées de divertissement et ainsi des bazars de micro, petites et moyennes entreprises et la création économique. L'emplacement de l'attraction touristique de Loksado qui a été équipé d'installations et d'infrastructures telles que hébergement et une bonne infrastructure routière donne un aperçu de la vie de la tribu de Dayak des montagnes. Chers amis, c'est la rubrique Les Nouvelles de l'Indonésie.
voix de l'Indonésie revient à la tenue du Voice International Quiz 2023. Cette année, le quiz international Voice of Indonesia, la voix de l'Indonésie 2023 est sous la forme d'un concours d'écriture. Écrivez un essai sur l'une des 5 destinations touristiques super prioritaires d'Indonésie, Borobudur, Lac Toba, Likupang, Mandalika et Labuan Bajo, d'une longueur de 700 à 800 mots, Arial 12 et 16 ans, enregistrement dans la forme d'audio, concours de rédaction ouvert du 10 avril au 20 août 2023. Envoyez votre essai et les résultats de l'enregistrement audio par courriel voicequiz2023@gmail.com. Pour les personnes sélectionnées comme gagnants, une personne pour chaque service linguistique recevra des prix attractifs de la Voix de l'Indonésie. Le gagnant sera annoncé dans le moment 78e journée de radio, le 11 septembre 2023. Pour plus d'informations complètes, veuillez visiter notre site web www.voinews.id et Facebook de The Voice of Indonesia. Soyez prêts, qui sait que vous devenez l'un des gagnants.
J'écoute la voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Chers amis, voici l'histoire d'aujourd'hui. L'histoire d'aujourd'hui va commencer avec l'événement du 8 juillet 1940. L'aéroport de Kemayoran a été ouvert. L'aéroport de Kemayoran est le premier aéroport international d'Indonésie. La piste de l'aéroport de Kemayoran a été construite en 1934. En fait, à partir du 6 juillet 1940, cet aéroport avait commencé à fonctionner. Le premier avion à atterrir était DC-3 Dakota appartenant à la compagnie aérienne néerlandaise des Indes orientales qui a volé depuis l'aéroport de Cililitan. Cet aéroport a officiellement fermé le 31 mars 1985. C'était la première fois que l'aéroport de Kemayoran fonctionnait. Le 8 juillet 1976, le lancement du premier satellite en Indonésie, nommé le satellite Palapa A1. Depuis Cap Canaveral aux États-Unis, Palapa A1 a été lancé avec une fusée Delta de 1914 et a fonctionné du 9 juillet 1976 jusqu'à 1983. Après avoir été lancé avec succès pour la première fois, le satellite Palapa A1 s'est mis en orbite avec succès au point GEO 83 BT. Avec le succès du lancement satellite Palapa A1, l'Indonésie à cette époque a réussi à occuper la troisième position dans le monde qui est capable de faire fonctionner le système de communication satellite domestique utilisant le satellite GSO. Le nom Palapa a été choisi par le président Suharto. Le 8 juillet 2009, la mise en œuvre des élections générales présidentielles en Indonésie. Il y avait 3 candidats aux élections de 2009, à savoir le couple Megawati Prabowo, Susilo Bambang Yudhoyono Budiono et Yusuf Kalla Wiranto. Susilo Bambang Yudhoyono et Budiono ont réussi à obtenir 60,80% des plus de 121 millions de votes exprimés en un tour. La Commission électorale générale à la fin du 25 juillet 2009 a annoncé les résultats officiels. Susilo Bambang Yudhoyono et Budiono ont été président et vice-président de la République d'Indonésie pour la période 2009 jusqu'à 2014. Chers amis, c'était l'histoire d'aujourd'hui de la voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Thank you.
cerita cinta yang selalu berakhir bahagia. Semua kisah orang berbeda, kisahku hanya luka. Aku terharu pada masa lalu yang selalu membuat hatiku biru. Namun ku pikir kamu istimewa, tapi kamu bilang cinta itu bisa hilang. Kemana perginya? Akankah berakhir jadi lara? Kamu bilang duka itu akan sirna. Ku tak percaya, ku jatuh di dasar nastapa. Aku terpaku pada rasa rindu, menunggu kapankah kita bertemu. Lalu ku pikir aku istimewa,
première chanson indonésienne, j'espère que vous l'aimez. Vous êtes toujours avec nous à Voice of Indonesia de l'Indonésie au monde sur la fréquence de 3325 kHz et 4750 kHz. Chers auditeurs, voici donc mon Indonésie.
Voice of Indonesia.
Merci d'être fidèle à notre antenne, la voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Chers amis, voici la rubrique Mon Indonésie, intitulée Le ministre de l'Industrie encourage une nouvelle coopération entre l'Indonésie et la République populaire de Chine de l'industrie 4.0 à la bioprospective. Le ministre de l'Industrie, M. Agus Gumiwang Kartasasmita, a tenu une réunion avec le ministre de l'Industrie et des technologies de l'information de la République populaire de Chine, Jin Zhuanglong, mardi à Shenzhen. À travers cette rencontre, le ministre de l'Industrie a souhaité que la coopération entre les deux pays soit encore renforcée à travers plusieurs collaborations potentielles dans le secteur industriel qui lui ont été proposées. Citant le communiqué de presse du ministère de l'Industrie, l'Indonésie a proposé une coopération potentielle liée à l'industrie pharmaceutique et à l'industrie verte. Concernant la coopération avec l'industrie pharmaceutique, le ministre de l'Industrie a déclaré que les matières premières pharmaceutiques n'avaient pas encore été explorées et qu'elles dépendaient des importations. L'Indonésie espère qu'il y aura un développement des investissements de la République populaire de Chine pour les matières premières médicinales autres que le paracétamol. Le ministre de l'Industrie a déclaré que le système de santé indonésien est actuellement l'un des plus grands au monde, atteignant 240 millions de personnes avec un chiffre d'affaires de 40 milliards de dollars. Par conséquent, il est très important d'approfondir la structure de l'industrie pharmaceutique. Une autre collaboration offerte par l'Indonésie est liée au développement d'une industrie verte qui donne la priorité à l'efficience et à l'efficacité dans l'utilisation des ressources de manière durable. Dans ce cas, le ministre de l'Industrie espère que l'Indonésie et la Chine pourront travailler ensemble pour développer des produits verts via l'industrie de bioprospection qui transforme les ressources biologiques, y compris des plantes, des micro-organismes et des animaux. Le ministre de l'Industrie a déclaré que l'une des ressources potentielles de cette industrie dont dispose l'Indonésie est les algues et les micro-algues qui peuvent être transformées en matière première pour les bioproduits tels que bioplastique, biocarburant et les engrais. Le ministre de l'Industrie et des Technologies de l'Information de la République populaire de Chine a proposé 4 nouvelles initiatives de coopération industrielle. Les 4 initiatives proposées par la Chine comprennent la poursuite du Forum chinois de l'ASEAN sur les industries émergentes et le dialogue ministériel sur l'industrie, le renforcement de la coopération dans l'industrie émergente, la coopération liée à l'industrie 4.0, véhicule à nouvelle énergie, et la coopération liée au photovoltaïque. Concernant des efforts visant à transformer la technologie industrielle pour renforcer l'industrie 4.0, le ministre de l'Industrie saluait les initiatives de coopération proposées. Il a invité l'industrie des technologies de l'information de Chine à accroître ses investissements en Indonésie. Le ministre de l'Industrie salue également les opportunités d'optimiser la coopération qui existait auparavant, notamment dans le domaine des véhicules électriques et des véhicules à énergie nouvelle. L'Indonésie vise à devenir une plaque tournante des fabricants de véhicules électriques dans la région concurrentielle à l'échelle mondiale. Cette politique offre également un espace de collaboration avec le gouvernement de la République populaire de Chine et son secteur privé. La volonté de l'Indonésie de développer un écosystème de véhicules électriques est un capital important pour la coopération avec la Chine. D'autre part, la Chine est le plus grand producteur de véhicules électriques avec une part de marché d'un tiers de la production mondiale. Selon le ministre de l'Industrie Agus Kartasasmita, cette collaboration pourrait concrétiser les aspirations de l'ASEAN à devenir plus verte et plus durable. Chers amis, c'était la rubrique Mon Indonésie de la Voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta.
Voice of Indonesia.
Aku menang.
kesunyianmu, terbuka hatiku, tersenyumku sendiri menatap wajahmu.
Jakarta, voici la voix de l'Indonésie. La diffusion en français.
Chers auditeurs, vous venez d'écouter la chanson indonésienne. Vous êtes toujours avec nous à Voice of Indonesia, de l'Indonésie au monde. En plus de la fréquence de 3325 kHz et 4750 kHz, vous pouvez écouter notre émission sur le site web de www.voinews.id. Bon, chers auditeurs, maintenant nous allons vous présenter le magazine culturel sur le tourisme et la sagesse locale du peuple indonésien.
Chers amis des quatre coins du monde, merci d'écouter la voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Voici magazine culturel. Cette fois, nous allons vous présenter la colline de Baride au centre de Java. La colline de Baride est située dans la région des montagnes Menore, dans la province de Java centrale, précisément dans le village de Karangrejo, la régence de Magelang, dans la province de Java centrale, environ 2 km du temple de Borobudur, donc la beauté est bien connue dans le monde entier. Selon l'histoire, cet endroit a été utilisé pour rassembler des troupes pendant la guerre de Diponegoro en 1825. Le nom de la colline est un acronyme Bubare Perang Gede qui signifie la fin de la Grande Guerre. Depuis lors, cette colline est connue sous le nom de la colline de Baride. L'attraction touristique naturelle de Bukit Baride ou la colline de Baride a un panorama de montagne avec un fond d'arbres ombragés qui rassemble formé une forteresse de collines pas trop haute. Sur cette colline, les visiteurs peuvent également assister au phénomène du lever du soleil. L'emplacement de la colline de Baride, environ 2 km du temple de Borobudur, est un peu éloigné. L'accès routier à l'emplacement est assez bon. La colline est ouverte du lundi jusqu'au dimanche, de 4h jusqu'à 17h. Elle dispose d'installations touristiques complètes, telles qu'un belvédère, un grand parking, un poste d'observation sous la forme d'une cabane dans les arbres et bien sûr, des vendeurs de nourriture et de boissons. Nous assistons au lever du soleil. Les visiteurs doivent être sur la colline de Baredi à 4h du matin ou même plus tôt. Sur la colline, vous pouvez également voir de loin le temple de Borobudur. Pour atteindre le sommet de la colline, il faut faire une randonnée d'environ 15 minutes en passant par un chemin déjà bon et facile à passer. Pour ceux d'entre vous qui souhaitent se rendre à la colline de Baredi, il est préférable d'utiliser des chaussures confortables et non glissantes. Si vous voulez regarder le lever du soleil, vous devez apporter des vêtements chauds parce que le temps est assez froid. Et surtout, n'oubliez pas de préparer votre appareil photo pour capturer le magnifique paysage de la colline de Baredi. Chers amis, c'était magazine culturel de la Voix de l'Indonésie diffusé depuis Jakarta, intitulé La colline de Baredi, située au centre de Java. Merci à tous, à bientôt.
Jalan derita tidak pernah kuduga ini semua terjadi. Oh, 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 oh. Janganlah engkau menghancurkan segala setelah lawan kita mengarungi bersama. Biarkan cinta kita yang suci di lambung ngembang garam di lautan berduri. Hanya satu pintaku, semoga kau perbaiki. Sejak dulu lagi pengorbanan tiada pernah cukup.
Voice of Indonesia de l'Indonésie au monde. Vous êtes toujours avec nous à Voice of Indonesia sur la fréquence de 3325 kHz et 4750 kHz. Vous pouvez écouter notre émission sur le site web de www.voinews.id. Pour la rubrique suivante, voici l'Indonésie en couleur, la rubrique qui vous fournit des informations intéressantes en Indonésie.
Merci d'écouter la voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Chers amis, voici la rubrique l'Indonésie en couleur, intitulée l'innovation de BioBriquet. La BioBriquet est un combustible solide fabriqué à partir de la biomasse et peut être utilisé comme source d'énergie renouvelable alternative pour remplacer le pétrole et les fossiles. Les données du ministère de l'Énergie et des Ressources Minérales pour 2021 indiquent que les réserves nationales de pétrole sont 4,17 milliards de barils et que les réserves de gaz naturel atteignent 62,4 millions de pieds cubes. Les données sont certaines de continuer à diminuer chaque jour. Des efforts sont nécessaires pour surmonter ces problèmes. L'un d'entre eux est l'utilisation de l'énergie de la biomasse provenant des plantes Nipa sous forme de biobriquettes. Nipa est un type de palmier et l'une des fleurs potentielles trouvées à Kampung Laut Tanjab Tim dans la province de Jambi. À Kampung Laut Tanjab Tim, l'utilisation de Nipa n'est pas optimale. Concernant cette question, les étudiants du programme d'études D3 en chimie industrielle de l'Université de Jambi, présidé par Putra Surya Pandava Yuda, ont innové Nipa en une nouvelle forme d'énergie renouvelable sous la forme de biobriquette Nipa. L'innovation réalisée par les étudiants de l'Université de Jambi leur a permis de se qualifier pour le financement du ministère de l'Éducation, de la Culture, de la Recherche et de la Technologie de la Direction académique de l'enseignement supérieur professionnel par le programme Autonomisation des communautés villageoises. Ils ont soulevé le titre Nipa BioBriquet, les dernières solutions d'énergie alternative dans l'utilisation des ressources naturelles dans le village de Laut Tanjung Jabung Timur. L'équipe a été déclarée avoir réussi la sélection le 7 juin 2023. Le programme d'autonomisation des communautés villageoises vise à sensibiliser et à inviter les étudiants à contribuer au développement et l'autonomisation des communautés villageoises. Les activités du programme d'études D3 en chimie industrielle de l'Université de Jambi se tiendront en juillet jusqu'à novembre 2023. Pendant la mise en œuvre de cette activité, une socialisation, une formation et une assistance seront effectuées pour les résidents de Kampung Laut dans la fabrication de Nipa BioBriquet. Le Nipa BioBriquet devrait devenir l'un des produits supérieurs de Kampung Laut pour optimiser l'utilisation des plantes de Nipa. Chers amis, c'est la rubrique l'Indonésie en couleur de la voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Merci à tous, à bientôt.
Manisnya senyumanmu membekas dalam kalbu. Kini ku rasa Ku telah jatuh cinta pada sosok malaikat yang tiada bersaya. Itu kamu di dalam hatiku, hanya kamu bidadari surgaku. Oh, maukah kamu menjadi pendamping dalam hidupku yang akan selalu temani hidupku ini, dan kan ku berikan semua taman surga di dunia. Kini ku rasa ku telah jatuh cinta sosok malaikat yang tiada bersayap. Itu kamu di dalam hatiku. Oh, hanya kamu bidadari surgaku. Oh, maukah kamu menjadi pendamping dalam hidupku yang akan selalu temani hidupku ini, dan kan ku berikan semua taman surga.
Voix de l'Indonésie revient à la tenue du Voix International Quiz 2023. Cette année, le Quiz International Voice of Indonesia, la Voix de l'Indonésie 2023 est sous la forme d'un concours d'écriture. Écrivez un essai sur l'une des 5 destinations touristiques super prioritaires d'Indonésie, Borobudur, Lac Toba, Likupang, Mandalika et Labuan Bajo, d'une longueur de 700 à 800 mots, Arial 12 et 16 enregistrements, dans la forme d'audio, concours de rédaction ouvert du 10 avril au 20 août 2023. Envoyez votre essai et les résultats de l'enregistrement audio par courriel voicequiz2023@gmail.com. Pour les personnes sélectionnées comme gagnants, une personne pour chaque service linguistique recevra des prix attractifs de la Voix de l'Indonésie. Le gagnant sera annoncé dans le moment 78e journée de radio, le 11 septembre 2023. Pour plus d'informations complètes, veuillez visiter notre site web www.voinews.id et Facebook de The Voice of Indonesia. Soyez prêts. Qui sait que vous devenez l'un des gagnants.
From Indonesia to the world.
Voilà la dernière chanson que vous écoutez et nous continuons notre programme avec les informations musicales. Bonne écoute.
Voice of Indonesia.
Bonsoir à tous, voici le magazine musical. Dans cette édition, nous vous présentons une chanson de Keroncong intitulée « Setengah Hati » chantée par Keroncong Nation. La chanson sortie en 2004 a été composée par Krishna et popularisée par Ada Ben. La chanson « Setengah Hati » parle de quelqu'un qui est unilatéral dans son amour pour quelqu'un parce que la personne qu'il aime ne l'aime pas vraiment de tout son cœur. Bon, chers auditeurs, voici Keroncong Nation dont le titre est « Setengah Hati ». Bonne écoute!
Chers auditeurs, voilà l'émission quotidienne en français pour ce soir. Merci de votre fidélité. Rendez-vous demain dans la même heure et la même fréquence. Au revoir.